France Culture.
Le journal de la rédaction vous est présenté par Servane de Pastre. Bonjour.
Bonjour. Donald Trump est en route pour sa tournée en Asie. Il doit rencontrer jeudi prochain le président chinois Xi Jinping pour des dernières discussions commerciales avant l'entrée en vigueur de droits de douane. D'ici là, les équipes de négociateurs travaillent d'arrache-pied pour trouver un compromis, vous l'entendrez. Les bureaux de vote ont ouvert en Côte d'Ivoire pour les élections présidentielles. Le président sortant, Alassane Ouattara, est en passe de rempiler pour un quatrième mandat. Nous en parlerons avec notre invité. Puis René Martin, le directeur du festival de musique classique Les Folles Journées de Nantes. Sous le coup d'une enquête judiciaire, elle concerne son management. C'est la mairie de Nantes qui a lancé l'alerte. Elle annonce cesser sa collaboration avec le directeur. Donald Trump est en route pour Kuala Lumpur en Malaisie où il débute une tournée de plusieurs jours en Asie. Il doit participer au sommet de l'ASEAN ce week-end, mais ce qui est scruté, c'est une rencontre la semaine prochaine entre le président américain et son homologue chinois, Xi Jinping. Rencontre qui aura lieu en Corée du Sud. L'objectif, trouver un accord commercial. Samedi prochain, des droits de douane de 100% doivent entrer en vigueur. Mais à 5 jours de cette réunion, les sujets de divergence restent très nombreux. Alors depuis ce matin, des délégations chinoises et américaines se réunissent à Kuala Lumpur pour tenter de trouver un terrain d'entente. Sébastien Berriot, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes envoyé spécial de France Culture à Kuala Lumpur. On peut dire que c'est la réunion de la dernière chance.
Oui, les deux délégations sont retranchées depuis ce matin au Merdeka 118, le célèbre deuxième gratte-ciel le plus haut du monde ici dans le centre-ville de Kuala Lumpur. Une réunion en hauteur et surtout sous haute pression qui vise tout simplement à sauver le tête-à-tête de jeudi prochain entre Donald Trump et Xi Jinping. On pensait après l'été que les deux puissances avaient réussi à aplanir leurs divergences. Mais depuis 2 semaines, la tension est brusquement remontée après la décision soudaine de Pékin d'imposer de nouvelles restrictions sur ses exportations de minerais rares. Washington a répliqué en menaçant de taxer les produits chinois à 100%. Dépêché à Kuala Lumpur, le vice-premier ministre chinois Li Feng et le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent savent qu'ils disposent de très peu de temps pour déminer le terrain. Les sujets de désaccord sont nombreux. Les terres rares, donc, désormais moyen de pression préféré, le soja américain ou encore les semi-conducteurs. Pas consensus n'intervient ce soir. Les délégations doivent se retrouver en principe demain matin. L'issue du tête-à-tête Xi Trump de jeudi prochain apparaît encore très incertaine.
Merci Sébastien Berriot en direct de Kuala Lumpur pour France Culture. Les discussions commerciales entre la Chine et les États-Unis sont très constructives, assure il y a quelques minutes un porte-parole américain. En Côte d'Ivoire, près de 9 millions d'électeurs sont attendus aux urnes aujourd'hui pour les élections présidentielles. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 10h, heure française. Le grand favori, c'est le président sortant, Alassane Ouattara, âgé de 83 ans. Il briguera un quatrième mandat. Les principaux leaders de l'opposition ont été écartés du scrutin. La campagne aura été marquée par la violence. 4 personnes sont mortes ces derniers jours, mais aussi par l'utilisation de l'intelligence artificielle au service de la désinformation. Le reportage d'Omar Waman, notre envoyé spécial à Abidjan.
Ces dernières semaines, les réseaux sociaux ont été inondés de publications générées à l'aide de l'intelligence artificielle. Dans cette chanson, au rythme entraînant, Alassane Ouattara y est présenté comme un assassin, un criminel.
Criminel, c'est toi qui as tué les Ivoiriens.
Or, tout a été généré par l'IA, des paroles à la voix, en passant par la musique. L'objectif, diviser, manipuler les électeurs, comme ici,
et demander à ce qu'on
où l'on voit un faux Alassane Ouattara demander que les candidatures de ses principaux rivaux soient rejetées.
Parce qu'ils ne sont pas éligible pour des élections apaisées.
Une vidéo également virale qui peut tromper les publics les plus prudents, affirme le journaliste Diedry Anderson, expert en désinformation.
Même parfois, les journalistes se trompent. Donc imaginez les citoyens ordinaires qui n'est pas habitué à vérifier les infos. Donc oui, aujourd'hui, les contenus générés par l'IA sont de plus en plus sophistiqués. Souvent, visuellement, à l'œil nu, on n'arrive pas à distinguer, on n'arrive pas à voir qui c'est le contenu généré par l'IA. Mais parfois, on va utiliser des outils qui vont compléter ce travail de vérification qu'on fait.
Et pour lutter contre l'utilisation de l'IA à des fins de désinformation, la Côte d'Ivoire envisage de créer un label Safe IA qui garantira un cadre éthique et des contenus certifiés sans recours à l'intelligence l'intelligence artificielle.
Omar Ouaman, envoyé de spécial de France Culture à Abidjan avec les moyens techniques de Sandrine Malon. Ces élections se tiennent donc dans un contexte tendu en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons Richard Banegas, professeur à Sciences Po et chercheur au CERI. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alassane Ouattara, je le disais, est donné grand favori de ce scrutin. Est-ce que pour autant, il bénéficie aujourd'hui du soutien des Ivoiriens ?
Alors écoutez, il est difficile d'en juger sans avoir véritablement encore les chiffres, mais ce qui est évident, c'est qu'il y a quand même un décalage de plus en plus grand entre un pouvoir comme ça qui dure et qui est incarné par une personne octogénaire désormais. Donc on a un décalage très important hein, entre une société de plus en plus jeune et puis une gérontocratie en Côte d'Ivoire comme au Cameroun d'ailleurs, où on l'a vu ces dernières semaines, et un décalage aussi entre les imaginaires, les aspirations de cette jeunesse et puis un débat politique qui paraît figé dans les années encore 90 et qui produit aussi un éloignement de cette jeunesse vis-à-vis du politique en général. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on l'a vu bien sûr dans d'autres pays, hein, mais en Côte d'Ivoire, cette problématique s'est affirmée avec force, avec de nouvelles générations qui ont émergé pendant la guerre, hein, si on regarde un petit peu en arrière, mais qui n'ont jamais pu trouver de traduction politique. Guillaume Soro et Blégoudé ont été, par exemple, écartés. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que, disons, cette force-là de la gérontocratie, elle n'est pas juste dans le secteur politique ou dans le champ partisan, elle est aussi profondément inscrite dans un ordre social très patriarcal qui repose sur des fortes relations de dépendance entre vieux père et bon petit, comme on dit, et de relations de patronage qui continuent de structurer la société.
Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme de résignation dans la société en Côte d'Ivoire aujourd'hui ?
Oui, il semble aujourd'hui qu'effectivement ce soit le sentiment qui prévaut face aussi, il faut quand même bien le signaler, face à une répression de plus en plus forte hein, du régime qui s'est manifestée aussi bien sur le plan judiciaire que sur le plan de la répression policière. En 2020, il faut s'en souvenir, il y avait une violence importante hein, lors du troisième mandat qui avait fait effectivement se lever des foules dans le pays à l'appel de l'opposition. Mais la violence, en fait, elle n'est jamais véritablement spontanée. Donc, à l'époque, il y avait un appel au boycott actif, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Hein. On est plutôt dans une espèce de silence des opposants. Tidjane Thiam a appelé il y a quelques jours à libérer le pays, mais qui a été comme une sorte d'appel à l'insurrection en quelque sorte, mais qui a été décrié jusque dans les rangs de son propre parti. Et face à cette répression, on a effectivement aujourd'hui le sentiment que les Ivoiriens sont résignés, aussi en raison peut-être de leur histoire. Hein. Le souvenir de la guerre est encore toujours très vivace, mais aussi peut-être, il faut aussi le dire, en raison de ce qui se passe ailleurs dans la sous-région, avec la multiplication des putschs et tout un ensemble, disons, de dérives autoritaires dans les pays du Sahel en particulier. Ouais. Et je crois que les Ivoiriens n'ont pas du tout envie hein, de se retrouver dans ce genre de situation.
Pour revenir aux élections d'aujourd'hui, est-ce que ce à quoi va devoir faire face Alassane Ouattara, c'est pas forcément des candidats ou des opposants, mais plutôt l'abstention? C'est ça, ces élections ? C'est ce qui va régner lors de ces élections ?
Oui, alors ça ne changera rien au résultat et sans doute au fait qu'il risque d'être élu au premier tour, comme ce fut le cas déjà en 2020, hein, où il avait officiellement obtenu 95% disons des votes. Mais il faut effectivement pointer cet enjeu du taux de participation qui, déjà la fois dernière, avait été officiellement affiché à près de 54%, mais avec de nombreux bureaux de vote qui avaient été bloqués, qui n'avaient pu ouvrir, environ 20% des bureaux, et puis surtout de très fortes différences entre le nord et le nord-ouest, particulièrement du pays où les gens se déplacent en masse pour voter en faveur de Ouattara, et puis d'autres régions où, au contraire, hein, c'est l'abstention qui prévaut, y compris à Abidjan. Hein. Donc si on rapporte ça au nombre de personnes inscrites sur la liste électorale, qui sont relativement peu nombreux par rapport aux 30 millions de personnes qui vivent dans le pays, on a environ aujourd'hui 8 700 000 électeurs, et si on rapporte cela donc au nombre de votants, on peut aussi considérer que cette gérontocratie dont on parle depuis tout à l'heure, eh bien, repose sur une base sociale et électorale relativement étroite.
Très bien. Écoutez, un grand merci pour ces explications. Richard Banegas, je rappelle, vous êtes professeur à Sciences Po, chercheur au CERI, co-auteur également d'un livre, La guerre des papiers en Côte d'Ivoire, qui sort lundi. Je signale également à nos auditeurs l'émission Culture Monde. 4 épisodes étaient consacrés cette semaine aux élections en Côte d'Ivoire, à retrouver en replay sur le site de France Culture. Deuxième journée de débat à l'Assemblée nationale sur la partie recette du budget. Les députés ont approuvé la défiscalisation des pensions alimentaires pour ceux qui en bénéficient et la fiscalisation pour ceux qui la versent. Actuellement, c'est l'inverse. Les députés qui examineront également la taxe Zucman aujourd'hui, un impôt sur les très hauts patrimoines défendu par la gauche. Le texte avait été rejeté en commission des finances. La droite et le bloc central sont contre. Dans ce contexte, l'agence de notation Moody's a maintenu la note souveraine de la France hier soir en l'associant à une perspective négative. La mairie de Nantes a annoncé hier cesser sa collaboration avec René Martin. Le fondateur du festival de musique classique La Folle Journée est soupçonné de dérives dans sa gestion financière et dans son management, notamment envers ses collaboratrices. C'est en tout cas ce qui ressort d'un audit interne mené au sein du CREA, l'association qu'il dirige et qui organise le festival. La mairie de Nantes a saisi la justice. Une enquête doit débuter. Les conclusions de l'audit confirment des premiers témoignages parus dans la presse. Guillaume.
Plusieurs salariés disent la même chose. René Martin regardait des vidéos porno dans son bureau en présence de ses collègues. Le son assez fort pour qu'elles entendent et il leur imposait même parfois l'image. C'est arrivé plusieurs fois, ce qui pousse la ville de Nantes à cesser toute collaboration avec le patron de La Folle Journée.
Il n'y aura plus aucun travail avec ce monsieur.
Émeric Céasso, adjoint à la culture à la ville de Nantes.
Ce que nous avons lu dans ces conclusions nous semble assez solide pour dire aujourd'hui de manière très ferme, la ville de Nantes ne travaillera plus avec René Martin et ça a rendu nécessaire donc la saisine du procureur.
Une enquête judiciaire est ouverte pour savoir si René Martin a bel et bien harcelé les salariés de La Folle Journée. La prochaine édition du festival est d'ailleurs prévue dans 3 mois, fin janvier, et il n'est pas question de l'annuler pour Émeric Céasso.
Le travail sur l'édition 26 est bien avancé. Nous sommes toujours en contact, en collaboration avec les équipes du CREA et de la Cité des Congrès pour pouvoir produire l'événement 26. Oui.
La région annonce elle aussi ne plus vouloir travailler avec René Martin. Il était le directeur artistique de Ma Région Virtuose, cet événement qui organise 150 concerts dans les pays de la Loire.
Morgane Guillaumard d'ici Loire-Océan. Le département de la Loire-Atlantique a également pris des mesures et suspend son soutien financier à La Folle Journée, ce qui représente 10 000 euros pour l'édition 2026. Qu'ils soient bouclés, ondulés, frisés ou encore crépus, c'est la journée internationale des cheveux texturés. Aujourd'hui, depuis 3 ans, un salon a lieu à Courbevoie, près de Paris, avec des conférences organisées toute la journée. L'un des sujets abordés, c'est la discrimination capillaire. Les députés avaient tenté de l'inscrire dans la loi il y a 1 an et demi et le débat est toujours aussi présent, Faouzi Trita.
Historiquement, celles et ceux qui ont des cheveux texturés se sont toujours sentis écrasés par le poids de l'injonction à les dissimuler. Aujourd'hui, il y a un mouvement de libération et d'affirmation. Maïma est une autrice guadeloupéenne, experte de la communication vibratoire consciente. Elle a aidé des milliers de femmes à assumer leurs cheveux texturés.
On n'avait pas de produits adaptés pour les coiffer. Ensuite, il fallait les lisser, et ça vient du colonialisme. Ensuite, il fallait les cacher avec le foulard. Et ensuite, c'était quelque chose qui était, au vu de la société occidentale, quelque chose de répugnant, en fait. Il faut dire le mot comme il est. Et aujourd'hui, pour que quelqu'un soit pleinement lui, puisqu'on est à l'ère où les gens s'assument, on ne peut pas laisser une partie de notre corps cachée, dissimulée, en avoir honte parce qu'un système l'a décidé.
Dans le monde du travail, plusieurs affaires ont poussé le député Lyotte Olivier Servat à déposer une proposition de loi pour inscrire la discrimination capillaire. Votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale en 2024, elle a été ralentie par la dissolution, mais elle reste d'actualité.
Il n'est pas acceptable qu'on ait, à se travestir une réalité pour pouvoir ressembler à quelques critères occidentaux. Maintenant que, enfin, je suis prudent en disant que le gouvernement semble être stabilisé, on va pouvoir y participer maintenant et trouver effectivement un relais au Sénat pour qu'enfin elle soit totalement promulguée. Je crois que c'est le sens de l'histoire parce que ça a créé beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente, beaucoup de satisfaction, aussi beaucoup de fierté.
Le député espère raisonnablement que le texte pourra être discuté au Sénat lors du premier semestre 2026.
Faouzi Trita. Et puis toujours beaucoup de nuages aujourd'hui. Le temps est perturbé avec un front pluvieux qui s'étire du sud de l'Aquitaine vers le Jura et les Alpes. De la neige est attendue à partir de 1800 à 2000 mètres. Pour les températures, il fera 12 degrés à Dijon, 13 degrés à Strasbourg et à Nancy, 14 degrés à Paris, 20 à Marseille et 22 à Perpignan.